Et comme chaque mardi, j'ai le plaisir de recevoir maintenant Philippe Bernadou et Jacques Griffaut. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour le rendez-vous du libraire. Alors aujourd'hui, c'est un spécial États-Unis, en quelque sorte.
Oui, c'est tout à fait ça.
Vous nous donnez des nouvelles d'Amérique.
On sait que les nouvelles d'Amérique et la littérature en Amérique comme en France s'enrichit de ses apports extérieurs. Donc le premier auteur dont je vais vous parler nous vient d'Éthiopie. Il s'appelle Dino Mengestu, D-I-N-A-W-M-E-N-G-E-S-T-U. Et il est aux États-Unis par contre depuis l'âge de 2 ans. Donc c'est à travers ses romans, c'est le troisième traduit en français, qu'il explore l'histoire récente d'une Afrique que forcément il n'a pas connue. Les chapitres de Tous nos noms, c'est le nom donc du nouveau roman, donnent en alternance la parole à deux narrateurs, Isaac et Hélène. Isaac, c'est la voix de celui qui n'a pas de nom. Il les a abandonnés en fuyant l'Éthiopie pour l'Ouganda, et donc, comme il n'a aucun nom, il a tous les noms. Mais Isaac le baptise le professeur. Isaac, c'est un va-nu-pied comme lui, qui fait semblant d'être étudiant, et qui devient un héros du campus, en prêchant une révolution de papier, des affiches en fait, des espèces de dadzibao, dont je vous donne un exemple, réponse à une affiche apposée par la direction de l'université, dégrader les murs de notre université est un crime contre la nation. Et voilà la réponse donc de nos deux acolytes. Ne pas dénoncer un crime contre la nation est un crime contre la nation. Ne pas savoir ce qu'est un crime contre la nation est un crime contre la nation. Demander ce qu'est un crime contre la nation est un crime contre la nation. Penser ou affirmer qu'il y a trop de crimes contre la nation est un crime contre la nation. Alors le professeur dit il en manque un et il rajoute sur le tract, lire ce tract est un crime contre la nation. Alors Isaac, c'est donc, il a autant d'énergie que de désespoir. Et il va entraîner le narrateur anonyme à la suite d'un incertain chef de guerre et de révolution sanglante en contre-révolution assassine. Il va le sauver à la fin en lui donnant sa propre identité pour qu'il puisse s'exiler aux États-Unis. Et c'est pour ça que l'Isaac qui raconte cette histoire n'est pas le vrai Isaac. Vous me suivez jusque-là. Hélène, l'autre voix, c'est la femme d'un certain âge, dit-elle, qui est chargé par son association humanitaire d'aider Isaac dans son acclimatation aux États-Unis. D'ailleurs, personne ne l'appelle Isaac non plus, à cause de son anglais livresque, tout le monde l'appelle Dickens. Hélène et Isaac vont céder à leur attirance mutuelle. Je ne sais pas si on peut parler d'amour, tellement il y a de silence. Isaac ne peut rien dire de son passé, d'autant plus qu'il n'est pas tout à fait le sien. Et tellement il y a d'autre part de secrets. Un couple mixte dans la Middle America, il vaut mieux qu'il se cache, même de ses amis. Hélène en fait l'expérience cruelle en essayant de casser ce racisme inavoué. Une scène dans un akbar, dans un snack qui est une des plus belles du livre et qui finit par « Isaac me dit, maintenant tu sais, c'est comme ça qu'il te brise lentement en petits morceaux ». Et on n'est pas pendant la guerre de sécession, on peut imaginer que ça se passe dans les années 90. Et peut-être ça n'a pas bougé très vite depuis, il faudrait demander à Donald Trump, mais je m'égare. On ne peut qu'espérer que de l'alliance entre ces deux solitudes naîtra un couple qui durera, l'auteur nous le laisse envisager, un couple qui devra vivre avec le fantôme d'Isaac, le vrai, non pas entre deux, mais avec eux deux, comme on puise sa force dans l'esprit des ancêtres. Cela fait partie des livres qui entretiennent une petite flamme dans la noirceur du monde, et c'est pour ça que je vous encourage à le lire. Dino Mengestu, ça s'appelle Tous nos noms et c'est Albin Michel qui le publie.
Merci Jacques. Alors je précise à nos chers auditeurs que si vous entendez de drôles de bruits derrière vous, derrière les chroniques littéraires de Jacques et de Philippe, c'est tout simplement qu'il y a des travaux dans notre immeuble. Et voilà, ça peut arriver jusque dans votre oreille en passant par nos micros, tout simplement. Héroïsme mineur de Molly Antopole. Mais Molly Antopole, c'était pas déjà cette auteure invitée des lettres d'automne?
Non, ça a été l'auteur invité de Place aux Nouvelles.
Ah, de Place aux Nouvelles, pardon. De Place aux Nouvelles, excusez-moi. De
Place aux Nouvelles, un festival littéraire, donc, que j'organise à Lauzerte, avec la Femme Renard et aussi la médiathèque intercommunale Pierre Sourbier à Lauzerte. Et c'est après avoir entendu une chronique sur France Culture de François V, qui est le directeur du Parisien dimanche, je crois, que j'ai lu le bouquin, j'ai été bluffé, et à ce moment-là, j'ai invité Molly Antopol, et ça s'est très bien passé, d'abord parce qu'elle est charmante, et ensuite parce qu'elle a été fort intéressante, et que tout le monde a été passionné par ce qu'elle a dit. Je dois dire que sur le salon même, à Lauzerte, elle a vendu et signé 50 bouquins, et que les retours que j'ai sont tous excellents. Alors, de quoi s'agit-il? De 8 nouvelles, d'abord. 8 nouvelles qui ont comme point commun, sans doute, c'est l'exploration de destins qui sont façonnés par l'histoire. C'est des déracinés qui sont pourtant totalement assimilés. C'est des gens qui sont tentés par des événements survenus avant leur naissance. C'est aussi, dans ces nouvelles, il y a souvent aussi une personne qui veut améliorer le cours des choses et qui, ce faisant, crée des effets dévastateurs sur son entourage. Alors, vous donnez une ou deux de ces nouvelles. Par exemple, héroïsme mineur. Alors, héroïsme au singulier, alors que dans le titre, c'est héroïsme au pluriel. Et là, c'est héroïsme mineur. Le narrateur, c'est un certain Oren, jeune militaire, 21 ans. Il est chauffeur d'un lieutenant. La fonction la moins indispensable, dit-il, aux forces de défense israéliennes. Ça se passe en Israël et c'est contemporain. Le frère du narrateur, Asaf, vient de finir, c'est son frère aîné, il vient de finir son service militaire. Il travaille au champ, le tracteur se renverse sur lui, son frère cadet, qui est donc le narrateur, se précipite, prend un camion, dégage son frère, l'emmène à l'hôpital, où il aura la vie sauve, mais la jambe gauche réduite de moitié. Oren, donc, ce jeune, le narrateur, il est considéré comme un héros, car il a tout de même sauvé son frère, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de tant d'attention. Asaf envisageait d'aller passer 4 mois dans une ferme bouddhiste en Californie avec Yaël, qui est la jeune femme qu'il aime, et Yaël est là, elle est sur les lieux. Et les rapports vont se tendre entre les deux frères. Asaf déclarera même sa chambre zone interdite à son frère. Oren, qui est secrètement amoureux de Yaël, la rencontre. Il ose une fois la prendre dans ses bras dans la salle de bain, mais un peu comme une sœur. Il va lui proposer tout de même d'aller en Amérique avec lui. Oren va-t-il pouvoir trouver sa place, supplanter son frère aîné, qui était, lui, admiré de tous? Et ben voilà, vous le saurez en lisant cette nouvelle. Une autre, Le Silencieux, complètement différente. Une jeune femme, c'est contemporain, ça se passe aux États-Unis, Daniela, 24 ans, elle téléphone à son père pour lui annoncer qu'elle a écrit une pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre va être jouée. Il est un peu inquiet, le père. Il l'invite à venir dans le Maine, là où il réside. Lui est un ancien dissident tchèque. Il rédigeait un journal à Prague anonymement. Et à la suite d'une campagne internationale, il a réussi à obtenir un poste d'enseignant aux États-Unis en évitant ainsi la prison en Tchécoslovaquie. Et il sent qu'il n'a pas été tout de même un très bon père, et surtout son gros problème, c'est que depuis la chute du mur, eh bien, lui qui était considéré comme quelqu'un d'important, qui avait un témoignage important à annoncer, eh bien, d'un seul coup maintenant, on peut dire que le travail auquel il a consacré sa vie s'arrête d'un coup. Il est réduit à quémander un poste de maître auxiliaire. Père négligent, il craint donc d'être montré sous un jour négatif dans la pièce de sa fille, parce qu'il est égocentrique, il est instable, et voilà la rencontre entre le père et la fille. Il n'ose pas parler de la pièce à sa fille, qui elle de son côté est nerveuse, parce que elle craint qu'il le trouve stupide de parler d'une époque qu'elle n'a pas vécue. Car en fait, elle va parler, et c'est là où les choses vont in fine un peu s'arranger, elle va parler tout de même de la période où son père était en Tchécoslovaquie, et là, la pièce s'appelle Le Silencieux, car son père, sous la torture, n'a donné aucun nom à personne. Mais le père va surtout penser qu'elle va parler de lui comme père négligent et autres. Donc voilà, il y a un rapport qui est très subtil entre le père et la fille. Je vous invite vivement à lire ces nouvelles. Encore une fois, les retours que j'ai des lecteurs sont tout à fait positifs. Chaque nouvelle est un roman, et quand on a commencé une nouvelle, eh bien, on la lit jusqu'à la fin.
Héroïsme mineur de Molly Antopol. Merci Jacques. Alors, je suis un petit peu déconcentré hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit de marteau derrière. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendent aussi fort que nous, mais ici ça résonne. C'est assez incroyable quand même. Mais bon, nous poursuivons notre rendez-vous du libraire que vous pouvez retrouver en podcast aussi sur cfmradio.fr, hein, ne l'oubliez pas. Et évidemment que tous les ouvrages présentés, vous les retrouvez aussi sur le site des libraires, librairiemontauban.fr.
C'est bien ça. Et alors, tous ces exilés, que vont-ils trouver qui viennent de Tchécoslovaquie, d'Israël ou d'Éthiopie aux États-Unis? Eh ben, c'est ma séquence vie du livre avec à nouveau des nouvelles qui nous viennent des États-Unis, mais ce coup-ci des nouvelles au sens d'information. Alors, une qui m'a mis de mauvaise humeur, une qui m'a mis de bonne humeur. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Une nouvelle bibliothèque sans livres a ouvert aux États-Unis. Ça se passe à San Antonio, au Texas. C'est la seconde bibliothèque qui ne propose donc que des accès numériques. C'est bien sûr géré par un groupe qui s'appelle Bibliothèque, tech comme technique. Et c'est bien sûr une opération commerciale avant tout. Moi, personnellement, je suis allé récemment chez le charcutier qui m'a montré une photo de tranche de jambon. Eh ben, je crois que dans les deux cas, on reste un peu sur notre faim. Une bonne nouvelle quand même, qui vient des États-Unis. Les États-Unis donnent le pouls du monde. Et quand je dis le pouls, c'est celui qu'on prend au poignet, hein, pas celui qu'on a sur la tête. Les versions papier aux États-Unis reprennent de la vigueur. Les ventes de versions papier, qui étaient en chute constante depuis 2 ans, cette année, sont redynamisées. Alors, par 3 best-sellers, effectivement. Le tome 4 de Gray, le 50 nuances de Gray, hein. La fille du train, un excellent roman policier qui a fait un carton là-bas. Et le va et poste une sentinelle, l'inédit de Lee Harper, que l'on croyait jusque-là auteur uniquement de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. On a trouvé cet inédit et ça fait un carton sur papier. Donc, sachant que l'écho entre les États-Unis et la France met quelques mois, si ce n'est quelques années, on a de l'espoir en vue.
Merci Philippe, on arrive maintenant bien aux actualités des libraires, une actualité chargée. Hein.
Alors, le jeudi 24 à 19h à la Femme Renard, showcase, petit live acoustique d'un groupe montalbanais qui s'appelle June and the Paradox Mind. Oui, c'est pour lancer la sortie officielle de leur nouvelle EP, Maman.
Non. Le lendemain, vendredi 25 septembre, à 17h30, à la librairie Deloche, Carline Nivet et Pascal Suard dédicacent De Chair et d'Oubli. Ce sont deux magistrats qui sont tous les deux anciens montalbanais, qui ont fait leurs études, un à l'Institut, l'autre à Saint-Théo. Et De Chair et d'Oubli est un roman policier, donc écrit à quatre mains, qui se passe à Albi, collection du Noir au Sud, c'est les éditions Kern. Pascal Suard est procureur à Albi.
Ensuite,
le samedi 26 septembre, de 16h à 18h à la Femme Renard, micro-trottoir vidéo, Rira bien qui lira le dernier. C'est une animation de l'ALMA. Il y a 3 tournages en librairie en septembre. Et devant la caméra, venez présenter en quelques mots un livre qui vous a fait rire. Une BD, un roman, etc. Tous les textes qui agitent les zygomatiques sont les bienvenus.
Le dimanche 27, ça se passe à Mouillac. Vous avez rendez-vous place de l'église et avec la librairie Beau Livre et l'association de la Pique. Il s'agira d'une promenade toponymique sur les causes du Quercy, en compagnie donc de Paul Burgan qui, au cours de la promenade, détaillera l'étymologie des noms de lieux que vous traverserez. Toutes les informations, vous pouvez les avoir bien sûr à la librairie Beau Livre, place nationale.
Le même dimanche 27 septembre, toute la journée au Métronome à Toulouse, il y a un salon du disque dans le cadre de la 9e édition du FAM. C'est le Forum des Alternatives pour la Musique. C'est organisé par la Fédération des Labels Indépendants de Midi-Pyrénées. La Femme Renard y sera présente.
Et enfin, une petite rectification. Carole Martinez, qui devait venir le mardi 29 septembre à la Femme Renard présenter La Femme qui penche, donc elle ne peut pas venir. La rencontre est reportée au 18 novembre.
Eh bien voilà, ainsi s'achève ce rendez-vous du libraire. On se donne rendez-vous à mardi prochain. J'espère que les travaux seront terminés.
À mardi prochain.
Au revoir.